Salut, c'est Yann pour l'émission Crème de la Crème. Vous êtes sur Canal B, vous pouvez y rester pendant une heure si vous avez envie de découvrir quelques nouveautés, à commencer par deux, oui, c'est rare, mais cette semaine c'est comme ça, deux disques d'or de la semaine, ceux de Holiday Ghosts, cinquième album, et puis Loro, premier album en solo, presque solo. Et puis on écoutera aussi Jane Weaver, on découvrira une nouvelle année grâce à la machine à remonter le son qui revient sur une année choisie au hasard entre 1960 et 2024, histoire de redécouvrir ou de découvrir des morceaux plus ou moins oubliés. Et puis pour la page culture de l'émission, je recevrai tout à l'heure la réalisatrice Mélusine Peduzzi du film d'animation Les yeux fixes du miroir qui concourt dans la catégorie à corps perdu pendant le Festival National du film d'animation à Rennes jusqu'au 17 avril. Et puis des infos concerts où on ira du côté de l'Ubu à deux reprises les 18 cette semaine et 22 avril pour les concerts de Structures et Palehound jeudi soir, et puis lundi de la semaine prochaine une soirée Happy Monday avec Voca Gentle. Des places à gagner sur canalbay.fr pour ces deux soirées. Et puis on évoquera la venue à Rennes du rejeton d'un des héros de la scène garage anglaise. Ce sera les Shadrachs avec en leur sein le fils de Billy Childish. Ce sera au Bistrot de la Cité grâce à Beast Records le 7 mai. Mais on commence avec les Anglais de Holiday Ghosts qui proposent un cinquième album déjà disponible depuis un peu plus d'un mois maintenant. Un album intitulé Coat of Arms et qui fait un bel ensemble mélangeant garage pop et puis des ambiances plus indie pop fin années 80, début 1990. On tombe directement amoureux de l'album. C'est pour ça qu'il est disque d'or cette semaine dans Crème de la Crème. Il est sorti le 29 mars dernier sur le label Fat Cat Records. Bonne émission.
Yeah.
Je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, double disque d'or cette semaine dans Crème de la Crème, deux albums parfaits de bout en bout et admirables à la première écoute, celui des Holiday Ghosts, cinquième du nom hein, pour le groupe anglais, Coat of Arms tout à l'heure. Vous les retrouverez à Rennes pendant le Pipe à la Pop Festival numéro 3, début juin grâce au Pichikai, toutes les infos sur despichikai.com. Et puis à l'instant, Loro, lui vous ne le retrouverez peut-être pas tout de suite à Rennes, mais j'espère bien un jour voir en concert. Ce musicien de Sao Paulo, au Brésil, donc, qui s'est installé au début des années 2020 en Angleterre, qui a fondé le groupe psychédélique pop Wax Machine, et qui là, eh bien, en solo pratiquement, figurez-vous qu'il joue aussi bien des guitares, batteries, percussions, piano, clavier, basse et flûte, qu'il a produit l'album. Bon, il a quelques personnes qui l'accompagnent, mais en tout cas, voilà, c'est lui qui fait tout sur cet album Cabana, qui sortira dans un peu plus d'un mois sur le label Far Out Recordings. Si vous avez envie de calme, d'évasion, de repos et un peu d'entendre des animaux de la jungle, des oiseaux surtout quand même, de la jungle brésilienne je précise, eh bien vous allez adorer cet album de Loro, L-A-U, plus loin R-O. On le réécoutera toute la semaine puisque c'est le double disque d'or de la semaine dans Crème de la Crème. À suivre dans Crème de la Crème, un nouvel extrait de l'album Love in Constant Spectacle pour l'anglaise Jane Weaver. Si vous aimez votre psyché bien planant et bien répétitif, si vous aimez aussi Stereolab, eh bien vous allez adorer probablement cet album de Jane Weaver, en tout cas ce titre The Axis and the Seed.
Oh, 2011.
Solid white.
you see me.
C'était grâce à la machine à remonter le son qu'on remontait en 2011 et qu'on écoutait Kid Loco alias Jean-Yves Prieur qui a fait partie de pas mal de projets différents avec la Yellow Production notamment et l'époque French Touch, c'était au début des années 2000, fin 1990 et qui en solo a sorti pas mal de bons albums où il faisait se rencontrer musique électronique et goût pour le rock and roll, évidemment celui des Stooges. On sent quelques échos peut-être de hip hop hein, sur cette voix qu'on entendait à l'instant sur le morceau The Night I Had a Smoke with CB. C'était donc Kid Loco, la machine à remonter le son. Cette semaine revient pour sa 62e édition à l'année 2011. À suivre la page culture et une rencontre avec une réalisatrice présente au Festival National du Film d'Animation. Dans la page culture de Crème de la Crème aujourd'hui, eh bien, je suis heureux de retrouver notre invitée Mélusine Peduzzi. Bonjour Mélusine.
Bonjour.
Et on va parler des yeux fixes du miroir, film d'animation montré ici à Rennes pendant le Festival National du Film d'Animation. Vous l'avez peut-être vu dans un programme à corps perdu samedi dernier. Si c'est pas le cas, vous avez l'occasion de le voir ce lundi, ce mardi et peut-être... Sera-t-il auréolé d'un prix ? Je ne sais pas, il est en compétition ce film en tout cas.
Oui, ouais, complètement, dans la compétition à corps perdu.
C'est ton premier film d'animation véritable ? Il y a eu d'autres tentatives auparavant ?
Oui, un petit peu. Bah, comme, alors, moi j'ai fait des études d'anime et du coup j'ai fait quelques petits films par-ci par-là, un peu expérimentaux aussi, qui mélangeaient plutôt de la prise de vue avec des actrices et de l'anime. Mais là c'est le premier gros qui est produit quoi.
Un film mystérieux, vraiment, je ne vais pas dévoiler les mystères que j'ai pu y percevoir, mais simplement, avec cette entrée comme ça, une porte fermée, qu'y a-t-il derrière cette porte ? C'est toute la réponse que tu ne vas pas me donner peut-être, Mélusine.
Non, pas du tout. Non, ce n'est pas le but de révéler ce qu'il y a derrière la porte, je pense qu'il y a tout le monde qui voit ce qu'il veut voir là-dedans. Moi, j'ai mes propres significations, mais...
Un film que moi je dirais fantastique, en fait, peut-être réalisme fantastique, est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Je pense qu'on peut dire ça. Nous, on le met un peu dans la catégorie expérimentale avec l'association avec laquelle je l'ai fait, parce qu'on ne sait pas trop dans le quoi mettre. Mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc peut-être que réalisme fantastique, c'est plus précis, finalement.
Il y a du mystère, il y a des choses qui sont très concrètes, et puis des choses qu'on va soi-même interpréter comme on le veut. Donc on va plutôt s'intéresser à ton parcours, et puis j'aborderai quand même à quelques moments le film en question, Les yeux fixes du miroir. Tu fais partie d'une structure qui s'appelle Cellophane, qui a produit le film.
Ouais, c'est ça. Cellophane, c'est une association qui existe depuis 30 ans à Lille et qui fait plutôt, avant qu'ils faisaient pas de la production d'animation à proprement parler, mais qui fait plutôt de l'éducation populaire à l'image. Et du coup, on va faire des ateliers avec des gens en leur disant bon, est-ce que vous savez comment ça marche le cinéma d'animation ? Et après, on en fait avec les gens. Donc, on ramène du matos et on fait des petites séquences animées et des petits courts-métrages.
Comment ça marche justement ?
Bah, moi, je fais sur papier, comme si j'habitais au XXe siècle. Mais il y a plus grand monde qui fait ça en vrai. Mais donc, du coup, je suis sur une sorte de table lumineuse. C'est du rétroéclairage, ça vient éclairer derrière le papier et j'anime sur des couches superposées de feuilles qui me permettent de voir les dessins que j'ai faits avant la feuille sur laquelle je suis en train de travailler.
Une manière ancestrale, primordiale de faire de l'animation.
Oui.
On peut dire. Alors, l'entrée de ce film, il dure une... huitaine de minutes à peu près, un petit peu moins. On comprend qu'on a affaire peut-être à du crayon à papier, mais en fait on se dit est-ce que c'est aussi simple que ça ? Parce que bien sûr tu utilises une manière ancienne de faire de l'animation, mais tu le disais avec des ajouts peut-être plus contemporains. C'est vraiment du crayon à papier que tu utilises pour faire celui-ci ?
Bah pas que, mais en grosse partie. Sur le papier, c'est du bâton graphite, donc c'est comme ce qu'il y a à l'intérieur d'un crayon, mais sur un gros bâton, quoi, avec du critérium et c'est des énormes piles de papier. J'ai des énormes piles de papier dans le studio. Et après, il y a un gros travail en numérique. C'est vraiment pile un mix entre les deux. Donc il y a beaucoup de travail sur After Effects, qui est un logiciel qui sert à faire ce qu'on appelle du compositing, donc agencer les images. Parce que je vais pas m'amuser à refaire le décor à chaque fois que j'anime une main qui bouge. Du coup, il faut bien à un moment assembler ces éléments entre eux, quoi. Donc c'est à peu près la moitié du travail.
Donc la fascination que peut exercer l'animation sur tout le monde, elle est évidente. Et j'imagine que tu le vois souvent en animant des ateliers, en participant à ces ateliers-là. Qu'est-ce qui, toi, t'as happé dans ce milieu-là, qui t'a donné envie d'aller vers de l'animation? Tu as commencé par dessiner d'abord et ensuite tu as voulu mettre ça en mouvement?
Ouais, j'ai tout le temps dessiné. Depuis très longtemps, je voulais faire des études d'art et je savais pas trop ce que j'allais en faire. Et après, j'ai appris qu'il y avait des études de cinéma d'animation. Et en fait, moi, je veux faire du cinéma dans la vie, de manière générale. Je veux faire des films, pas que de l'animation, mais je trouve que ça permet de faire des formes de cinéma qui sont pas existantes dans le cinéma avec des actrices. Et je trouve que ça transmet des émotions qui sont complètement différentes.
Elle a eu lieu où, cette formation-là ?
C'était à Roubaix, à l'ESAT, qui est une école publique de cinéma d'anime. Enfin, qui a une formation qui s'appelle le DNMAD en cinéma d'animation.
D'accord. Une vie, j'imagine, pour un film comme celui que tu nous proposes ici, qui va se passer dans les festivals. Est-ce qu'il va être montré aussi sur les écrans des chaînes, par exemple ?
Bah, j'espère. Si Court-Circuit d'Arte, vous nous entendez, n'hésitez pas, hein, vraiment, pas de problème. C'est une super chouette émission avec beaucoup d'animation dessus. Le reste, j'en ai absolument aucune idée. Peut-être, j'imagine.
Bon, Les yeux fixes du miroir, toi tu le considères comme un film, ou vous le considérez à Cellophane, qui avait produit ce film, comme un film expérimental. J'imagine que c'est pas forcément ça qui va refroidir des éventuels diffuseurs.
Honnêtement, je suis pas très douée en diffusion. Je sais bien que l'expérimental, c'est pas forcément leur dada. Après, là, on n'est pas sur un film qui est complètement expérimental, dans le sens où c'est un peu figuratif.
C'est narratif, en tout cas, on comprend la narration.
Oui.
J'ai pu noter en me baladant comme ça sur internet que tu peux aussi être invité, comme par exemple au Frénois, là, avec projection des yeux fixes du miroir. Puis après, un film de Chris Marker. C'est toi qui as choisi le film qui est montré avec toi ?
Si, carrément. Le Frénois, c'est là-bas qu'on a mixé le film, en fait. Donc, c'est un studio d'art contemporain où il y a beaucoup de mixage de films. Et il y a des super conditions pour faire du son là-bas. Et du coup, j'avais carte blanche pour choisir un long métrage. Et Sans Soleil, de Chris Marker, c'est un film avec de l'image documentaire, plutôt. C'est un de mes films préférés. Je trouve que c'est merveilleux. Ça parle d'énormément de luttes qui ont lieu au XXe siècle, qui ont été complètement invisibilisées. C'est la très belle image documentaire. Et ça montre le Japon dans les années 80-70, qui sont absolument merveilleuses.
Et ça n'est pas un film d'animation?
Absolument pas.
Non, j'aurais été surpris que Chris Marker en effet, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être de l'animation dans ces films.
Il y a des trucs qui ressemblent.
Puisqu'il y a des images fixes parfois dans ces films aussi. Cette possibilité, en fait, qu'offre le cinéma d'animation de tout faire, finalement, est-ce que c'est ça qui te séduit aussi dans cette forme-là?
Carrément. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse tout faire. Je pense qu'on peut tout faire avec des acteurs et des actrices aussi. Mais je pense que le cinéma, ça permet de débrider un petit peu... D'animation, pardon, ça permet de débrider un petit peu l'imaginaire. Et ça permet de lâcher un peu le cadre. Là où avec les actrices, je pense qu'on a tendance à vouloir faire des trucs plus réalistes, alors qu'on n'est pas du tout obligé. Hein. On peut faire des trucs qui ressemblent à l'anime avec des acteurs et des actrices aussi.
Outre Chris Marker, que tu évoquais à l'instant, moi j'ai pu penser peut-être à un univers de David Lynch, par exemple, dans le fait de voir ton film, là, qui me fait penser à ce qu'il pourrait faire. Et il fait parfois du dessin. Je ne sais pas s'il a fait l'animation aussi, forcément, puisque dès Eraserhead, il y a un peu d'animation dans le film, évidemment. Est-ce que son univers te séduit aussi, celui de David Lynch? Est-ce que tu penses que ça a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre?
Ouais, j'ai une grosse période de David Lynch. J'aime toujours beaucoup ses films. J'aime pas du tout le personnage. C'est quelqu'un plutôt que je trouve détestable, hyper misogyne et avec lequel je suis pas d'accord. Mais par contre, j'aime beaucoup l'esthétique de ses films. J'ai beaucoup tourné à Twin Peaks pendant que je faisais ce film même.
Derrière cette porte-là, on a un peu l'impression d'être emprisonné, en fait. La claustrophobie possible, tu l'as imaginé pour le spectateur aussi?
Carrément. J'ai beaucoup, je pense, j'ai passé autant de temps à faire la mise en scène, à travailler les cadrages et à travailler l'ambiance claustrophobique du film que le faire, en fait, que fabriquer les images. Surtout que ça prend énormément de temps dans l'animation de préparer un film. Et là, ça m'a bien pris un an et demi avant d'avoir une mise en scène satisfaisante.
Ah ouais, donc on sait qu'il faut beaucoup de temps pour faire de l'animation, mais là, ça t'a paru un temps vraiment infini?
Bah, c'était 4 ans quand même. Donc je suis jeune, ça fait long. C'était pas infini, mais c'était beaucoup d'efforts et c'était beaucoup d'étapes.
On va écouter un peu de musique, parce que je t'ai demandé de nous proposer une sélection qui n'aurait pas forcément de rapport avec le film. On parlera du son d'Arthur Lévy après qu'on aura entendu ce titre. Je te laisse nous le présenter.
Alors le titre, c'est Pop Up Up de Idols de leur nouvel album Tank.
À l'instant, une sélection musicale proposée par notre invité aujourd'hui, Mélusine Peduzzi, avec ce film Les yeux fixes du miroir, à voir dans la sélection, le programme À corps perdu, en compétition ici au Festival National du Film d'Animation à Rennes. Si vous l'avez raté samedi lors de la première projection, il sera à nouveau montré ce lundi soir et aussi mardi. Bon, évidemment, si vous avez la possibilité d'écouter cette émission dans sa première diffusion lundi soir, je vous conseille d'aller voir la projection de ce lundi, puisque après, oui, vous pourrez échanger avec les réalisateurs, les réalisatrices de ces films-là, que des réalisatrices d'ailleurs, il me semble bien, ce lundi soir, avec Sigrid Ruot qui a réalisé Zinzolin ou Zinzolin, Zélie Elkiel, réalisatrice de Hammam, Mélusine, donc notre invitée aujourd'hui, et puis Christelle Guibert qui a réalisé Next. À l'issue des projections ici pendant le festival, et bien il y aura une gagnante, peut-être un gagnant. Est-ce que c'est important, Mélusine, de gagner un prix dans un festival comme celui-ci à Rennes?
Bah, ça fait de la reconnaissance, c'est sûr. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas tant. Mais c'est sûr que, par exemple, pour l'association Cellophane et Caméra, etc., qui sont quand même les deux associations qui ont produit ce film, parce qu'il n'y a pas que Cellophane, je pense que ça ferait très plaisir, ça, c'est sûr.
On espère pour vous, évidemment. Les yeux fixes du miroir, c'est ton travail, et puis aussi de celui de quelques autres, notamment celui d'Arthur Lévy au son. C'est quoi la connexion entre vous deux?
C'est un super pote, ça fait des années qu'on est copaines, et c'est une personne qui travaille plutôt dans la musique contemporaine et dans l'acousmatique, et qui a l'habitude de faire plutôt des pièces contemporaines qui sont très peu communes en termes de ce qu'on connaît de la musicalité quand on travaille pas dans la musique contemporaine. Et du coup, là, c'était la première fois qu'il faisait une pièce pour un film. Il avait envie de faire ça depuis des années et j'adore ce qu'il a fait.
Y compris les grincements comme ça au début, le bois
sur
lequel on appuie. Il a fait la musique et le son.
Non, pour le coup, il y avait un bruiteur, Renaud Watine, qui a fait un super boulot, qui peut pas être là malheureusement, mais et qui a mélangé un petit peu des sons que moi j'avais mis sur l'animatique, donc un peu le storyboard animé qu'on a en anime, plus des bruits qui se rapprochaient de la musique qu'Arthur avait faite.
En tout cas, c'est sûr, si vous, à un moment, vous fermez les yeux et que vous entendez juste la bande-son, vous pouvez déjà commencer à faire des cauchemars.
Ça peut.
La première étape pour se lancer dans le cinéma d'animation après sa formation, après ses études, c'est voilà, faire un film, c'est le premier. Est-ce que l'idée, c'est dans quelques années, Mélusine, d'aller vers le long métrage d'animation ou ça, c'est un truc où on pose la question, nous autres, animateurs de radio, journalistes, et en fait, c'est très tarte à la crème, mais c'est pas forcément le rêve que tu peux avoir, toi ?
En vrai, je pense que j'aimerais bien. Mais c'est vraiment beaucoup d'investissement. La moyenne pour faire un long métrage d'animation, ouais, c'est plutôt 10 ans. Donc il faut pouvoir sacrifier 10 années de sa vie quand même. C'est beaucoup de moyens. Après, moi, j'aimerais beaucoup faire des films un peu plus collectifs où il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, ou peut-être on est plusieurs à la réalisation, voire des films un peu bricolés. Il y a des personnes qui font ça. Et ça nécessite quand même un peu moins de temps, un peu de moyens.
Cellophane, cette association avec laquelle tu et vous avez produit le film, depuis que tu en fais partie, tu as donné beaucoup d'ateliers, tu t'es adressé à beaucoup de publics différents.
Oui, c'est surtout des publics du Nord-Pas-de-Calais. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des adolescentes, donc des personnes entre 12 et 17 ans, et aussi des personnes qui sont plutôt personnes âgées ou des personnes isolées. Ça dépend. Il y a aussi des ateliers qui sont faits dans des centres de rétention pour mineurs, qui sont des prisons pour jeunes, en fait. Hein. Et du coup, bah, on touche plutôt des publics qui soit n'ont jamais touché à l'animation, soit ont déjà fait un peu des trucs artistiques, mais c'est très rare que les gens aient déjà fait de l'anime, en fait.
Cellophane, ça existe depuis 30 ans. Tu n'en faisais pas partie il y a 30 ans, bien évidemment. Quand même, est-ce qu'il y a... parmi les personnes qui ont vécu des ateliers grâce à Cellophane, certains qui sont allés vers des possibilités d'animation aussi, ou vraiment, bon, on n'est pas là quand on intervient auprès des publics dont tu parlais.
Bah en fait, il y en a énormément, donc j'espère, j'imagine. Mais je sais qu'il y a des stagiaires de 3e qui viennent régulièrement, par exemple, et qui sont dirigés vers des études d'animation, typiquement à l'ESAT.
L'animation, on le sait, elle est parfois un petit peu reléguée aux arrières-parties de programme à la télévision, mais comme personne ne regarde plus la télévision, dans un monde quand même où on est baigné d'images qui bougent, j'imagine que ça doit être assez curieux, la première fois où on parle à quelqu'un d'animation et on lui montre que ce qu'on a fait au début, ça bougeait pas, puis ça bouge à la fin. C'est quoi le regard dès qu'on anime quelque chose auprès d'un jeune public, ou pas forcément si jeune d'ailleurs?
Bah, ça va être un peu con à dire, mais souvent les gens ils trouvent ça magique, en fait. Et c'est vrai que c'est magique. Moi, ça m'a fait la même chose la première fois que j'ai fait bouger un truc, mais parce qu'en fait c'est la base du cinéma. Une fois qu'on a compris comment l'animation ça marche, on a compris comment tout le reste du cinéma et la vidéo de manière générale ça marchait. Et du coup, souvent les gens ils sont super surpris de faire quelque chose, de voir que c'est beau, de voir que ça bouge et de voir que ça fait à peu près ce qu'ils voulaient que ça fasse. Et c'est très chouette à voir.
On l'a pas dit, évidemment, c'est du graphite, donc c'est du noir et blanc, en fait. C'était un peu obligé, selon toi, avec le thème que tu as choisi et puis l'univers, de le faire en noir, surtout en noir. Il n'y a presque pas de blanc, finalement.
J'ai tout de suite vu le film comme ça quand j'ai commencé à le travailler. Et aussi, je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas mal imprégnée de vieux films d'animation d'Europe de l'Est qui étaient pas mal dans cette esthétique-là, et j'aime beaucoup travailler avec le médium du crayon, et je me voyais pas trop travailler avec des couleurs ajoutées, c'est plus la texture qui m'intéressait là-dedans.
Les yeux fixes du miroir, donc 2023, un an, il se balade encore, il a encore une vie, bien sûr, ça va durer encore quelques temps de le balader de festival en festival, et puis en essayant de le montrer aussi ailleurs, même si c'est pas forcément toi qui t'occuperas de la diffusion, tu le disais. Est-ce que tu es déjà sur un projet suivant, qui va arriver après les yeux fixes du miroir?
Pas du tout, je suis dans une super pause et c'est génial de ne pas enchaîner les projets. Je fais plein d'autres choses de ma vie.
Et avant d'arriver aux yeux fixes du miroir, quand même, tu as mis quelques temps à le faire, quelques années. C'est quoi, évidemment? C'est d'abord une idée, on dessine quelque chose et puis on le garde dans un coin, et on le ressort quelques mois après, on se dit « Ah mais oui, j'ai pas continué cette histoire ». Comment ça se passe véritablement d'arriver à ce résultat final?
Bah là, pour le coup, c'était un projet de film de fin d'études que j'ai pas du tout terminé en film de fin d'études, mais c'était un début de projet que ensuite j'ai essayé de démarcher à plein de personnes et d'associations différentes, et il y a l'association Caméra etc. du coup qui est belge, qui m'ont recontacté et qui m'ont mis en contact avec Cellophane, et à partir de là c'était Globalement, on a cherché des financements, donc ça prend quelques années, faire des dossiers de production, faire le storyboard, tout ce qu'on appelle la pré-production, et ensuite faire l'image.
Tu travailles parfois aussi avec d'autres personnes de Cellophane, par exemple, sur d'autres travaux que les tiens ?
Ça m'est pas encore arrivé, mais j'aimerais bien faire ça pour la suite, parce que là, Cellophane commence à faire de la production. Il y a un petit endroit pour faire de la production, ça reste associatif, mais c'est associé au studio de production Rainbox, qui est un studio du Nord. Et du coup, il y a beaucoup de projets en cours, en fait, dont Love Me True, qui est sorti l'année dernière, qui est un film de... Ouh, j'ai oublié son nom, je ne vais pas le dire. Mais, qui est un super film qui parle des réseaux d'appli de rencontres et du harcèlement des meufs dessus, entre autres.
Pour terminer cette discussion avec Mélusine Peduzzi, j'ai envie de te demander si toi, tu as quelques gros coups de cœur en animation qui soient venus ces mois, ces années dernières, des choses qui ne sont pas forcément si connues et qui ne sont pas forcément des films d'Europe de l'Est d'il y a très très longtemps, mais des choses qui t'ont fait vraiment te dire « Ouais, bah je suis fan de mon métier, j'ai envie de continuer à en faire. »
Il y a un film que j'adore, qui est dans la sélection à corps perdu aussi, qui s'appelle Gigi, qui est un film qui est très chouette en anime numérique. Et c'est l'histoire d'une meuf trans, et c'est son parcours de transition et comment est-ce qu'elle fait sa vie là-dedans. Et c'est très chouette, très beau film.
Eh bien, écoutez le conseil de Mélusine et puis allez le découvrir dans la sélection À corps perdu pendant le Festival National du Film d'Animation. Encore deux projections de ce programme-là. Mardi soir, ça sera au Ciné TNB. Et puis ce lundi, également au Ciné TNB, avec aussi une rencontre avec Sigrid Ruot, Zélie Elkiel, Mélusine donc, et puis Christelle Guibert. Merci beaucoup Mélusine.
Merci.
Longue vie évidemment à ces yeux-là, les yeux fixes du miroir, et puis on suivra la suite de tes aventures au pays magique du cinéma d'animation. Idols, à l'instant, vous les avez reconnus, c'était la suite du morceau que nous faisait entendre notre invité du jour dans la page culture tout à l'heure, Mélusine Peduzzi, avec son court-métrage d'animation Les yeux fixes du miroir, à voir pendant la durée encore du Festival National du Film d'Animation à Rennes. C'est du 13, ça a commencé samedi, jusqu'au 17 avril. Et le film est proposé, je vous le disais, ce lundi et encore une fois ce mardi, donc ne le ratez pas. Dans la session info-concert, j'évoquerai des concerts à l'Ubu les 18 et 22 avril, Palehound et Structures pour le premier soir et puis Voca Gentle pour le deuxième, des places à gagner sur canalb.fr pour ces deux concerts-là et puis on parlera de The Shadracks au Bistrot de la Cité le 7 mai grâce à Beast Records. Pour commencer la session info-concert du jour, l'américaine Ellen Kempner, soit Palehound, qui sera présente à Rennes, à l'Ubu grâce au Trans, le 18 avril, ce jeudi 18 avril. On va l'écouter avec des morceaux bien électriques et des paroles bien personnelles. Vous allez pouvoir retrouver ensuite un univers complètement différent. Le duo venu d'Amiens, Structures, ça sera plutôt début année 1980, les ambiances New Wave et Post-Punk avec des petites touches rock industrielles. Retrouvez Palehound et Structures à l'UBU le 18 avril et puis des places à gagner pour ce concert-ci sur canalb.fr.
Yeah.
Les infos autour de ces deux artistes, Palehound tout à l'heure et Structures à l'instant, vous les retrouverez sur lestrans.com puisque c'est bien les trans qui les invitent le 18 avril, ce jeudi 18 avril à l'Ubu. Place à gagner sur canalb.fr. Jetez-vous dessus parce que ça va partir très très vite. Restons à l'Ubu pour la suite de cette session info-concert avec un Happy Monday qui se profile le 22 avril prochain. Vous y retrouverez un trio londonien, Voca Gentle, qui propose une pop psychédélique quelque part entre Animal Collective, les Dirty Projectors. Et puis, sachez quand même que le groupe a collaboré avec Wayne Coyne, le chanteur des Flaming Lips, pour un deuxième album qui était sorti en 2021. Là, ils reviennent avec un nouveau single tout récent, plus récent en tout cas celui-ci, c'est le morceau TV Bra. Je vous propose Voca Gentle, c'est sur lestrans.com que vous trouverez les infos et puis sur canalb.fr que vous pourrez gagner votre place pour cette soirée du lundi 22 avril.
Yeah.
Voca Gentle à l'instant dans Crème de la Crème, à retrouver dans un Happy Monday à l'Ubu le lundi 22 avril. Vous retrouvez sur canalb.fr des places à gagner pour ce concert. Si on va terminer avec The Shadrachs. The Shadrachs, eh bien, c'est la musique d'un jeune anglais, Huddy Humper, fils de Billy Childish et de Julie Humper, c'est-à-dire s'il est attendu, hein, le fils donc du héros, du punk, du garage et du folk désormais, et de l'art brut anglais depuis la fin des années 1970. Billy Childish donc a laissé en héritage, avant sa mort quand même, à son fiston Huddy, eh bien, cette envie de brutaliser une guitare avec des riffs primitifs et puis d'aller peut-être un peu plus loin que le garage et d'aller écouter aussi, nous faire entendre quelques échos de Jonathan Richman, des Buzzcocks ou des Pixies. Ce pop a sorti, le label de Seattle a sorti un single des Shadrachs, et vous avez la chance de les retrouver en live au Bistrot de la Cité grâce à Beast Records le 7 mai. On écoute pour terminer Crème de la Crème aujourd'hui ce morceau Pray par The Shadrachs. On se retrouve mardi, on parlera encore film d'animation, et vous retrouvez playlist et réécoute bien sûr de l'émission sur canalb.fr. Ciao.